Le cardinal avait approché beaucoup de souverains et d'hommes de gouvernement depuis un tiers de siècle qu'il participait aux affaires des royaumes. Mais il n'en avait guère rencontré qui montrasse pareille maîtrise d'eux-mêmes. Voilà un prince de 25 ans auquel il venait d'annoncer que son frère était décédé, que le trône était vacant, et dont l'esprit demeurait assez dispos pour se soucier des embrouilles d'un conclave. Cela méritait considération. Assis côte à côte, près d'une fenêtre, sur un coffre recouvert de damas, les pieds du cardinal touchant à peine le sol et la cheville maigre du comte de Poitiers battant lentement l'air, les deux hommes eurent une longue conversation. En réalité, selon l'exposé que fit Duez, on butait toujours depuis 2 ans qu'était mort Clément V sur les mêmes difficultés que Duez naguère dans un champ aux abords d'Avignon avait exposées à Bouville. Le parti des 10 cardinaux gascons, qu'on appelait aussi le parti français, restait le plus nombreux, mais il était insuffisant pour constituer à lui seul la majorité requise des 2/3 du sacré collège, soit 16 voix. Les gascons, se considérant dépositaires de la pensée du pape défunt auquel ils devaient tout le cardinalat, tenaient fermement pour le siège d'Avignon et se montraient remarquables d'unité contre les 2 autres partis. Mais entre eux, il y avait compétition sourde. À côté des ambitions d'Arnaud de Pélagru, grandissaient celles d'Arnaud de Fougères et d'Arnaud Nouvelle. Feignant de se soutenir, ils se tiraient sournoisement dans les jambes. « La guerre des 3 Arnauds, » dit Duez de sa voix chuchotante. « Voyons maintenant le parti des Italiens. » Ceux-là n'étaient que 8, mais divisés en 3 factions. La gifle d'Agnani séparait à jamais le redoutable cardinal Caetani, neveu du pape Boniface VIII, des 2 cardinaux Colonna. Entre ses adversaires, les autres Italiens flottaient. Stefanietti, par hostilité à la politique de Philippe le Bel, tenait pour Caetani, dont il était d'ailleurs parent. Napoléon Orsini louvoyait. Les 8 ne retrouvaient de cohésion que sur un seul point, le retour de la papauté dans la ville éternelle. Mais là, leur détermination était farouche. « Vous savez bien, monseigneur, poursuivit Duez, qu'à un moment on a risqué le schisme, et qu'on le risque encore. Nos Italiens refusaient de se réunir en France, et ils faisaient savoir voici peu que si l'on élisait un pape gascon, ils ne leur reconnaîtraient pas, et nommeraient le leur à Rome. « Il n'y aura pas de schisme, dit calmement le comte de Poitiers. « Grâce à vous, monseigneur, grâce à vous, je me plais à le reconnaître, et je le dis partout. Allant de ville en ville, portez la bonne parole. Si vous n'avez pas encore trouvé le pasteur, vous avez déjà rassemblé le troupeau. » « Coûteuse brebis, monseigneur. Savez-vous que j'étais parti de Paris avec 16 000 livres et qu'il m'a fallu l'autre semaine m'en faire envoyer autant ? Jason, auprès de moi, était petit seigneur. J'aimerais bien que toutes ces toisons d'or ne me fuient pas dans les doigts, dit le comte de Poitiers en plissant légèrement les paupières. Duez, qui par voie détournée avait fortement bénéficié de ses largesses, ne releva pas directement l'allusion, mais répondit « Je crois que Napoléon Orsini et Alberti de Prato, et peut-être même Guillaume de Longhi, qui fut avant moi chancelier du roi de Naples, se détacheraient assez aisément. Éviter le schisme valait bien ce prix. » Poitiers pensa « Il a utilisé l'argent que nous lui avons donné pour se faire 3 voix chez les Italiens. C'est habile. » Quant à Caetani, bien qu'il continuât de jouer l'irréductible, sa position n'était plus aussi forte depuis que s'étaient découvertes ses pratiques de sorcellerie et sa tentative d'envoûter le roi de France et le comte de Poitiers lui-même. L'ancien templier Évrard, un demi-fou dont Caetani s'était servi pour ses œuvres démoniaques, avait un peu trop parlé avant d'aller se livrer aux gens du roi.